Bonjour à tous et bienvenue dans Splash and Go, l'émission de la rédaction d'US Racing pour ce 43e et dernier numéro de la saison, le 499e de l'histoire, c'est à noter. On a mis les petits plats dans les grands puisque nous sommes quatre et non pas trois. Arnaud nous a rejoint cette semaine encore une fois. Salut Arnaud.
Salut Geoffroy, salut tout le monde.
Et il y a Aloïs comme d'habitude. Salut Aloïs.
C'est le Geoffroy, salut Arnaud et bonjour à tout le monde.
Et Lilian est là, salut Lilian.
Salut Geoffroy et bonjour à tous.
Alors, pour ce dernier numéro de la saison, messieurs, ce que nous allons faire un petit débrief de l'année, un débrief général, ce que vous avez pensé de cette année, ce que vous avez retenu de cette année, que ce soit de l'IndyCar, que ce soit de la NASCAR. Bref, tant que c'est du sport auto américain, bien évidemment, nous allons en parler. On terminera aussi avec un petit peu d'actualité et les essais du côté de Charlotte avec la Next Gen, la nouvelle voiture qui sera en piste en 2022. Donc on en dira quelques mots de cette nouvelle voiture qui a l'air de faire un petit peu sensation, notamment sur le circuit routier de Charlotte. Voilà pour la présentation générale de l'émission. Et messieurs, ce que je vous propose, c'est de commencer par le bilan de l'année, ce que vous avez retenu de cette année 2020, que ce soit de l'IndyCar, que ce soit de la NASCAR. Alors, je pense qu'on a à peu près tous le même sujet global, mais si vous avez d'autres petites idées, c'est le moment. Allez, Lilian.
Eh bien, écoute, j'ai commencé quand même par une petite partie histoire. IndyCar, bah, Scott Dixon qui va chercher un nouveau titre et qui rentre encore un peu plus dans l'histoire de la discipline, comme si c'était pas déjà assez le cas. Alors c'est combien de titres? C'est le cinquième là qu'il a été cherché?
Non, le sixième.
Sixième, pardon. J'avais un doute. Toujours page d'histoire, bah, c'est Jimmy Johnson qui arrête la NASCAR à temps complet. Après 7 titres en NASCAR et avoir égalé, on le sait, Dale Earnhardt et Richard Petty. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre? C'est quand même les jeunes. Tu as fait un article récemment sur la partie NASCAR, mais en IndyCar, on voit quand même également toute cette nouvelle vague qui arrive. Je pense à Colton Herter en premier, qui est quand même, pour cette saison en tout cas, est devenu le fer de lance de la Andretti Autosport, tellement Rossi a eu une saison compliquée, pour pas dire pourrie.
Pourri, tu peux le dire.
Ouais, bon. Bah. Et puis... le retour au premier plan en NASCAR des voitures motorisées par Chevrolet. Et puis, bah, le titre pour un pilote Hendrick en la personne oui. De Chase Elliott à 24 ans.
Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Bah, écoute, je crois que tu as été complet déjà. Aloïs, est-ce que tu as retenu d'autres choses?
On a déjà parlé, c'était quand? C'était à la mi-saison à peu près de NASCAR. Moi, ce qui m'a surtout marqué au cours de cette saison, on peut même dire de cette année exceptionnelle, d'un point de vue sanitaire, en premier lieu, à cause de la pandémie que l'on connaît à l'heure actuelle, qu'on n'a pas besoin de revenir dessus parce que on la côtoie tous les jours encore à l'heure actuelle. Eh bien, c'est quand même qu'au travers de cette année assez particulière, on a eu l'émergence d'une stature forte au sommet de la pyramide de la NASCAR en la personne de Steve Phelps, qui a, à mon sens, mené la barque de la NASCAR de fort belle manière au travers déjà de l'interruption au mois de février-mars. La NASCAR était le premier sport aux États-Unis à avoir repris la compétition à ce moment-là. Elle l'a repris, je pense, on l'a dit à plusieurs reprises, avec une note de 10 sur 10, puisque tout était réussi. Bon, on ne va pas dire tout. La quasi-totalité était réussie. Et au final, hormis un test positif, entre guillemets, bénin de Jimmy Johnson à Indianapolis, et c'était qui le second il y a un mois?
Il y avait Austin Dillon aussi.
Exactement.
Brendan Gaughan.
Voilà. Donc, trois cas... sur les trois séries nationales, si je dis pas de bêtises, en plus.
Oui, il y a eu quelques mécanos du côté de la Gibbs aussi au moment de la reprise.
Byron pendant les playoffs également.
Et du côté de Byron et du côté de. C'était qui C'était Ken Seth à la fin, là, les mécanos de la Ganassi à Phoenix.
Mais du coup, c'est si on rapporte à l'échelle de toute la, on va utiliser un mot qui est connu dans les sports américains de bubble de la NASCAR depuis le mois de mars, c'est remarquable. Communication nickel, organisation rien à dire. Ils se sont même, la NASCAR s'est même fait remarquer au moment des comment dire des tensions raciales qu'il y a eu aux États-Unis. Et notamment à la sa réponse, j'ai envie de dire, forte et marquante vis-à-vis du drapeau, c'est du drapeau de la
Confédéré.
Confédérée, merci, j'avais un autre mot en tête, des Confédérés, et de ce qui s'est passé à Alabama avec le nœud coulant, etc. J'ai envie de dire, cette année 2020, malgré la situation, est une réussite pour la NASCAR, à mon sens.
Arnaud, on t'a pas encore entendu.
Non, mais c'est exactement la même chose que mes deux collègues préférés. Là, c'est, je trouve, non, mais franchement, la NASCAR elle a fait un super boulot. Enfin, on a quand même eu les 36 courses. Ouais, c'était pas gagné. Hein. Je sais pas si tu te rappelles, quand on avait fait la vidéo avec Patéfil, on se demandait un petit peu où on allait. Des courses en cours de semaine, des week-ends raccourcis, etc. Et finalement, la NASCAR a réussi à faire toute sa saison. Aujourd'hui, c'est quand même le seul sport américain qui a fait tout ce qui était prévu au calendrier. On
Ouais,
va
même
voir ce que
mondial.
vous. Non, parce que la F1 ne va pas faire le bon nombre.
Hein. La F1 va pas faire le bon nombre. Et puis surtout, la NASCAR, elle a commencé à l'heure, elle a terminé à l'heure.
C'est ça. Mais bon, donc voilà, donc un super boulot. Parce que, comme il disait, Steve Fell, franchement, il a vraiment pris les rênes du truc et ça fonctionne. Et donc, en plus d'avoir eu toutes les courses, le niveau qu'il y a eu cette saison. Enfin, ça a été super compétitif. On a vu émerger des nouveaux pilotes, beaucoup de nouveaux vainqueurs, un nouveau champion qui va, je pense, engranger encore plus de popularité s'il en avait besoin. Donc, ça s'est bagarré sur la piste. Il y a eu du spectacle, il y a eu des arrivées de dingue. Moi, les deux qui m'ont marqué, les deux de Talladega, hein. Les deux arrivées de Talladega, c'est des trucs. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'on aime la NASCAR. Hein. Pour moi, c'est vraiment une super saison, si tu mets de côté, bien sûr, l'aspect Covid, le fait qu'il n'y ait pas de public, etc. Sur la piste, ça a été une super saison, avec jusqu'au bout des courses disputées, et même la finale, même si vous en avez sûrement parlé la semaine dernière, Chase Elliott, il a mis tout le monde d'accord, en remportant trois courses sur les cinq dernières. Ça a été pour moi une saison vraiment, vraiment géniale. Et en plus, ça annonce un renouveau. Beaucoup de jeunes pilotes, vous avez parlé de l'âge, hein, c'est 23 ans, je crois, la moyenne entre les trois champions, entre Elliott,
C'est ça.
Cintric et Sheldon Creed. Donc rien que ça, déjà, ça annonce la couleur. Et puis, beaucoup de changements à venir en 2021, 2020, oui, 2021. Pas mal de pilotes qui changent d'équipe ou au moins de numéro et ou de voiture. Donc ça fait aussi pas mal de trucs. Il y a Jordan qui arrive. Enfin, moi, ça m'éclate aussi. Donc voilà, une super saison et surtout une très très bonne dynamique, quoi. Vraiment une bonne dynamique. Alors qu'on avait tendance à se dire que la NASCAR, elle était en perte de vitesse. Toutes les figures des années 2000 prenaient leur retraite, ce qui est vrai. Mais j'ai l'impression, si on regarde bien, on a vraiment, vraiment une dynamique super positive de la discipline, et ça, c'est plutôt encourageant. Voilà. Donc c'est vraiment ça que je retiens, c'est que une saison presque sans faute, du spectacle et une dynamique qui est vraiment une dynamique retrouvée, et que j'espère que voilà, 2021 sera encore une saison encore plus intéressante que celle de cette année.
Et tu dis une saison presque parfaite, mais il faut aussi ajouter au retard rattrapé, comme tu le disais Arnaud, c'est que la NASCAR s'est même permis le luxe de tester de nouveaux éléments lors des week-ends de course, comme les courses sur un jour, pas de qualification, beaucoup de choses, des courses en semaine également, au moment où on ne savait pas trop où on allait, elle a quand même réussi à innover, et certaines de ces innovations ont été implémentées au calendrier de la saison prochaine. Donc au final, elle a rebondi plutôt que d'être harassée par le contexte actuel. Elle en profite pour rebondir et aller de l'avant, ce qui est, je dirais, presque unique dans les sports professionnels à l'heure actuelle.
Alors, t'as raison, effectivement, ça leur, ils ont eu le courage de tester des choses. Après, il y a d'autres disciplines aussi enfin, par la force des choses, en fait, qui ont dû tester des nouveaux règlements, des nouveaux formats de week-end, etc. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que tous les sports en général y ronronnent, et c'est vrai que dès qu'il y a un changement, il y a souvent une levée de bouclier. Là, tout le monde a été obligé de s'adapter, et on n'a pas, les pilotes, les équipes pouvaient pas trop se plaindre en fait, parce que les conditions étaient ce qu'elles étaient. Donc ça, effectivement, ça a permis de tester des choses qu'on n'aurait sans doute jamais testées en dehors de la pandémie, et avec des résultats plutôt positifs pour certains trucs. Donc ça aussi, quand je dis, il y avait vraiment une super dynamique, parce que on va voir des choses arriver. Et puis on parlait de la dynamique pour 2021, le calendrier aussi.
Ouais, enfin, je voulais en parler justement. Ouais.
Ouais, enfin, effectivement, on parle pas de 2020, on parle de 2021. Mais ça a été annoncé en 2020 et tout le travail il a été fait en 2020. Donc il y a vraiment eu un super boulot de la NASCAR sur la piste, en dehors de la piste, et de se projeter la next gen qui arrive. Enfin, c'est super encourageant.
Et puis les audiences TV, se traduisent. Hein. C'est la série qui a le poids perdu. Hein.
On n'avait que ça à faire. Regardez la télé.
Ils se sont effondrés dans d'autres disciplines.
Ouais, ils ont perdu 2% d'audience par rapport à 2019. Daytona 500 excepté, si je me souviens bien de tous les chiffres. Donc oui, ils ont un peu perdu, mais globalement, cette érosion-là, c'est l'érosion qu'on a depuis peut-être une bonne décennie en NASCAR. Et c'est pas forcément une surprise. Donc c'est malheureusement, ça devrait peut-être continuer jusqu'à 2022 et cette nouvelle voiture hein, dont on reparlera après. Qui est attendu, mais
après avoir ce calendrier hein, qui pourrait peut-être booster les audiences.
Oui, peut-être.
Parce que je pense que les gens en avaient un peu, enfin, on en parlait aussi, hein, mais bon, on en avait un petit peu marre de ces circuits un petit peu identiques, de ces 1,5 mile un peu trop redondants dans le calendrier. Là, on voit qu'il y a vraiment une page qui s'est tournée hein, avec l'ère Steve Phelps. Aloïs en a déjà parlé. On a un calendrier qui, pour moi, depuis que je regarde la discipline, n'a jamais eu autant de modifications d'une saison à l'autre.
Si, c'est 2019 par rapport à 2020, le 2020 original, hein, j'entends. Ouais. Ça avait bougé. Alors, les pistes, on n'en avait pas tant rajouté que ça, mais ça avait quand même bougé au niveau du format. On t'avait refait les playoffs, on avait changé les pistes de place. C'était déjà un premier Big Bang à l'époque, on l'avait appelé. En fait, non, c'était juste un petit tremblement de terre, quoi.
Alors que là, quand tu vois, enfin bon, il y a beaucoup plus de pistes routières. Il y a quelques saisons, jamais on n'aurait parié sur 6 pistes routières en une saison en Cup. Déjà 3, c'était une petite révolution quand on avait rajouté l'Euroval.
Déjà dans les playoffs.
En plus, dans les playoffs, à la place de l'Oval de Charlotte. Et là maintenant, voilà, on passe de 3 à 6 en une saison.
Oui.
Mais c'est aussi, je pense, ce ras-le-bol qui se traduit notamment via le PG1 qu'on décrit régulièrement dans l'émission. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls à s'ennuyer avec ce type de produit utilisé sur les pistes d'un mile et demi.
Bah, c'est le PG1 déjà, et puis c'est aussi cette absence de solution pour la NASCAR avec le package aéro sur les ovales d'un mile et demi. On a tout essayé. Augmenter le spoiler, le réduire, augmenter la traînée, réduire la puissance moteur. On a beau tout faire, on n'y arrive pas. Il n'y a que 2-3 pistes, mais qui sont un peu au final des contre-exemples, comme Darlington, comme Atlanta, où quoi que tu fasses, quoi qu'il arrive, ça ira toujours bien. Et après, sur toutes les autres pistes, type Kansas, type Texas,
Chicagoland, on n'ira plus.
Oui, donc voilà, il y a eu des choses de fait de ce côté-là par la NASCAR. Et messieurs, juste pour terminer sur ce qu'on retient quand même, je vais vous donner un petit peu ce que je retiens parce que vous avez beaucoup parlé. On va aller un petit peu au-delà de la compétition quand même. C'est que, alors certes, la compétition était très bien gérée, mais l'absence de compétition officielle a été très bien gérée aussi. Puisque souvenez-vous, au mois d'avril, au mois de mai, alors que ce soit la NASCAR ou l'IndyCar, les deux se sont copiés, on a vu fleurir un nombre incalculable de courses officielles sur e-Racing, et ils ont fait des petits formats courts d'une heure qui étaient vraiment super intéressants à suivre, faut le dire. Ça a permis d'avoir du côté de la NASCAR et de la Fox le record pour une compétition virtuelle, le record de spectateurs à la télé. Donc ça, bon, c'était plus anecdotique qu'autre chose, mais les courses étaient sympas. On a pu avoir des vainqueurs qu'on n'avait pas habituellement. Je veux dire, un Timmy Hill, malheureusement pour lui, il n'y a que Suri Racing qui peut gagner dans des conditions régulières. Et après, ce qui en a découlé aussi de ça, et je sais que Aloïs en a beaucoup pleuré et continue d'en pleurer, c'est Kyle Larson qui a lâché un juron. On en avait parlé, je me souviens, avec Arnaud à ce moment-là, qui a été suspendu, viré de la Ganassi, décrié par tout le monde, lâché par ses sponsors. T'as dit quoi, Arnaud?
Non, j'ai dit persona non grata, clairement.
Ah oui, oui, complètement. Il a été, voilà, enfin, il a été brûlé en place publique ou presque, et il s'est racheté une virginité du côté du World of Outlaws sur les dirt tracks.
Ça allait bien d'être Outlaws avec ce qui s'était passé.
C'est vrai.
Ah, il s'est fait plaisir pour le coup quand tu vois son ratio de victoire.
C'est à côté, Harvick, c'est un petit joueur. Voilà, ici. Et ça y a permis de se réintégrer petit à petit dans le monde de la NASCAR en faisant amende honorable, en faisant tout un tas d'actions caritatives, je ne sais plus comment on peut appeler ça, mais voilà.
D'intérêt général.
Ouais, d'intérêt général, de repentance et tout ce qui s'ensuit. Et il a pu aller où tout le monde le voyait avant sa suspension, à la Hendrick. Chevrolet, qui l'avait lâché, le resoutient. Donc, c'est aussi la très belle histoire. Non, parce que à la base, ça part quand même d'une insulte. Et de...
Raciste?
Oui, raciste. Mais voilà, c'est vrai que la repentance de Larson, ça a été aussi un petit peu un fil rouge tout au long de cette saison. Et voilà quoi, Larson à la Hendrick, l'année prochaine, ce sera à 28 ans, le pilote le plus âgé de la Hendrick Motorsport. Et pour trouver trace d'un pilote de 28 ans le plus âgé à la Hendrick Motorsport, je ne sais pas ce que tu en penses, Arnaud, mais moi, de tête, j'en ai pas. J'ai pas une année comme ça.
Hein. Bah non, on n'était pas né, c'est tout ça.
mais même en étant pas né.
La Hendrick existe depuis quand? Fin des années 80?
Milieu des années 80, 84, 85.
Ouais, ouais, déjà là, c'était pas des vivres en ce temps-là et les pilotes n'étaient pas si jeunes.
C'est ça. Ouais, Jeff Gordon, quand il est arrivé.
Oui, mais il y avait Terry Labonte qui était déjà
plus âgé. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, en fait, ils ont toujours eu quelque part un ou des vétérans et, ouais. et des young guns là, qui arrivaient. Donc, et puis, mais en général, toutes les équipes fonctionnent comme ça. Donc, bon. Mais c'est vrai que c'est surprenant dans le sens où là, ils font le pari sur vraiment l'avenir. Alors bon, c'est plus trop un pari puisque chez Elliott, ça s'est fait. Mais c'est sûr que ça va changer. Les discussions vont changer dans les réunions d'équipe. Quoi.
Ah, ça va faire drôle, quoi.
Et puis, ils ressortent un numéro historique pour l'écurie, à savoir le numéro 5.
Oui, mais ça c'est pour faire vendre.
Bah, bien sûr.
Bah, en parlant de vendre, vous avez vu chez Elliott là, ce qui s'est passé?
Oui,
c'est le record absolu de vente de merchandising sur un champion. Le premier jour, en fait, il a battu tous les records, alors je crois de quoi, depuis 10 ou 15 ans. Ils n'avaient jamais vendu autant de produits dérivés d'un champion le lendemain de sa victoire.
Bah, en même temps, tu as eu qui comme champion qui soit vraiment populaire sur 10 ou 15 ans hormis Kevin Harvick en 2014 avec l'affect lié à Dale Earnhardt Sr. Et encore,
ouais, c'était plus de l'écurie. Oui, mais tu vois, effectivement, mais un Jeff Gordon ou un Jimmy Johnson, ils ont quand même une base de fans assez importante. Mais ça confirme que chez Elliott, voilà, il n'est pas pilote le plus populaire pour rien. Hein.
Excuse-moi, mais Jeff Gordon, l'année prochaine, on va fêter les 20 ans de son dernier titre. Hein.
C'est pas... Oh ah oui, là, celui-là, il pique, celui-là. Ça pique. Il ne faut pas dire des choses comme ça quand on est à l'antenne. Là, je sais pas.
Bah oui, mais bon, voilà, on remet les choses dans leur contexte. 2001, quoi. C'est... Donc, un petit peu tout ce qu'on retient de cette année. Et Lilian, tu parlais du calendrier du Big Bang. On peut quand même en dire quelques mots de ce calendrier 2021. Enfin, on peut en redire quelques mots. On a toujours 36 courses, on commencera toujours à Daytona, on terminera à Phoenix. Mais c'est vrai, comme tu le disais, 6 courses routières, dont une seule pendant les playoffs. Une All-Star, c'est pareil, qui a changé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Nashville qui arrive au calendrier. On a vraiment des nouvelles pistes. Et on a, ça Arnaud, on t'a pas encore entendu. Je sais que Lilian et Aloïs ont adoré. Bristol, au printemps, sur Terre.
Ah ouais, non, mais ça, attends. Ouais. Enfin,
ouais, j'espère que adorer, c'était un sarcasme. Hein.
Bien sûr.
Mais moi, j'adore, je suis fan. Je suis fan. Enfin, genre, dès que j'ai vu ça, mais je suis au taquet, complet.
Oui, je comprends, mais il n'y avait pas mieux.
Non. Non.
Amener de la terre à Bristol ou aller sur un vrai dirt track type Eldora.
Non.
Ou...
Mais non, en plus c'est Bristol. Enfin, je veux dire, c'est voilà. En plus c'est Bristol. Enfin, si je sais pas si tu as déjà eu l'occasion, mais enfin, déjà d'aller à Bristol, c'est le truc à faire si vous aimez la NASCAR. Et sur la terre, non mais. Et pour dire, moi j'en ai parlé à ma compagne dès que j'ai vu ça, je lui ai montré la vidéo et je dis voilà, ça y est, ça c'est fait. Voilà, donc ça on va cocher et c'est sûr, faut aller voir ça.
Donc c'est le prochain voyage US Racing.
C'est le prochain.
Voyage US Racing.
Bah, probablement, mais c'est sûr que.
À voir si on pourra y aller cette année.
Ça fait longtemps que faut que je l'emmène voir une course de NASCAR. Là, c'est l'occasion ou jamais. Donc,
mais je pense que ta vidéo, elle sert à rien parce que tu lui as montré une vidéo d'un vrai.
Non.
Pas de.
Non. D'une course. Tu sais, ils ont fait une vidéo promo un petit peu là, donc où ils mélangent de la terre et Bristol et tout. Non, elle est super cette vidéo en plus.
Ouais, moi, je suis. Prêt à parier dès aujourd'hui que Bristol sur Terre va faire un joli flop.
Ah, mais à quel niveau? Au niveau de l'audience, je peux t'assurer qu'au niveau de l'audience, ça va être...
Pas au niveau de l'audience, niveau de l'aspect sportif et de la compétitivité et du ratio attente-réalité.
Peut-être que de toute façon, dans ce genre de choses, on attend beaucoup plus que ce qui va se passer, comme souvent, hein, c'est comme les gros matchs de boxe ou les gros matchs de foot, t'attends énormément et en général, t'es toujours un petit peu déçu parce que tu mets tellement haut la barre en fait de tes attentes, mais c'est génial, enfin, en tout cas, c'est génial que la NASCAR fasse ce pari-là. Tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est qu'ils sont sur une tendance où ils bousculent un petit peu les codes, ils essayent des nouvelles choses, ils redynamisent un petit peu. Et en tout cas, moi, je suis super client de ça. Je suis vraiment super client de ça.
D'un point de vue, on essaye de nouvelles choses, on voit ce que ça donne, je suis d'accord avec toi. Après, quitte à jouer, entre guillemets, un coup de poker, autant aller sur un vrai dirt track qui amène un ADN particulier. Pas une courbe, une piste que l'on connaît pour être the world's fastest half mile.
Je sais pas. Toi, enfin, ils auraient été à Eldora. Ouais, mais toi, il y a déjà la truck et on sait que ça fonctionne. Enfin, toi, ça a fonctionné quand la truck y a été. Là, au contraire, ils innovent encore un petit peu plus parce que là, finalement, on dit, bah, ok, ils intègrent l'Eldora Speedway au calendrier de la Cup. Mais là, non, ils vont plus loin que ça. Ils prennent un circuit iconique qu'on adore tous où les courses sont géniales et en plus, ils rajoutent de la terre. Donc, c'est en plus du reste, quoi. Donc c'est pour ça. Bon, après, on verra. Hein, mais moi, en tout cas, moi, je suis super client et je suis fan.
Ah oui, bah, de toute façon, ça va attiser la curiosité, c'est clair. Ça.
Et c'est pareil, vu qu'on parle un petit peu des transformations de piste, il y a des rumeurs aussi du côté de l'autoclub Speedway qui pourrait devenir un short track.
Ah, en plus,
oui, c'est vrai.
Ils ont perdu. Enfin, ouais. Ils sont plus positionnés pareil dans le calendrier et tout. Enfin, c'est plus le calendrier. C'est plus non plus le circuit qui a le vent en poupe, quoi. Donc il faut effectivement sûrement qu'ils fassent quelque chose parce que sinon ça va être un circuit comme les autres hein, ou c'est déjà un circuit comme les autres.
Ouais, à voir un petit peu comment ça va évoluer cette affaire. En tout cas 2021, ça commence le 14 février pour la première course de championnat et Daytona 500. On aura eu le clash le mardi précédent. Donc
sur le routier.
Sur le routier de Daytona, oui.
Donc, dès le début, on va commencer ouais, par de la nouveauté. Ouais.
Ça, d'ailleurs, une victoire d'Eliott.
Le clash sur le routier, c'est encore une fois une très bonne idée, comme on en a parlé sur plein d'autres éléments ces dernières minutes. Une bonne façon de rentrer dans la saison avec des pare-chocs abîmés.
Tu penses vraiment que ça va jouer des pare-chocs sur le routier de Daytona?
Bah, ils n'ont rien à perdre. Ouais, la saison n'a pas encore commencé. Je pense que les mecs, ils vont pas se regarder dans le blanc des yeux. Hein. Après une pause de 2, 3, 4 mois,
de toute
ils
façon,
vont y
t'auras la
aller.
neuf qui
Après,
sera
voilà.
loin devant tout le monde. Tu veux qu'il fasse quoi?
2, 3, 4 mois. Je sais pas où tu trouves la pause de 4 mois, hormis pour Kyle Larson.
C'est plus ça. En fait, le suspense, il va être qu'est-ce que Larson va trouver pour se mettre en difficulté, mais aller gagner au bout du compte.
Ouais, non, mais Larson, il va gagner à Bristol.
Ça, c'est clair qu'il sera probablement un des favoris.
Oui, c'est ça. Non, Kyle Larson, il va juste faire la pole à Daytona pour le Daytona 500. Parce que comme ça, ce sera la belle histoire et ça permettra de vendre du papier. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que la pole à Daytona, ça sert juste à vendre du papier depuis. Ouf, depuis Austin Dillon.
Danica?
Ouais, Danica, Dillon.
Danica, Dillon, Elliott,
Bowman.
Elliott. Oui, ouais, c'est ça, c'est juste pour vendre du papier. Quoi. Oui, il y a eu Bowman. C'est toujours la belle histoire. Donc là, la belle histoire en 2021, ce serait Larson pour terminer cette histoire de rédemption. Donc voilà, donc j'annonce Larson en pôle des Daytona 500. Ça me fera pas de points supplémentaires au pronostic, mais au moins je l'aurais dit. Alors messieurs, avant de parler de la next gen, puisque c'est quand même l'actualité, en tout cas de ce début de semaine, et c'est ce qui va aussi nous occuper en fil rouge sur toute la saison 2021, ce que je vous propose, c'est un petit j'aime pas et une info qui sert à rien. Puisque j'ai fait un peu de stock cette semaine en prévision de 2021. Lilian, je t'écoute.
J'aime. C'est le nouveau magazine automobile que j'ai découvert il y a maintenant quelques semaines, auquel je me suis abonné. Auto Heroes, pour ceux qui ne connaissent pas, je conseille.
Oui, c'est un peu le truc classique, quoi. C'est un peu les vieilles gloires, ça, non?
Ouais, ça parle un peu de tout. C'est pas du tout sport auto, hein. Oui, ça parle ancienne, ça parle, non, parfois ça parle un peu de voiture de, ça parle un peu du futur aussi. Enfin, c'est un peu de tout. Ça traite vraiment la passion automobile, dans sa globalité. Et c'est
ouais,
ce que j'aime.
Au sens large, quoi. C'est ça,
ouais, hein. Très large, ouais, voilà, c'est clair. Ouais. Et bon, j'aime pas.
Ouais.
Eh ben écoute, c'est en rentrant du boulot tout à l'heure. Pardon ?
Tu t'es pas endormi ?
Non, 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 bah non, 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 quand même pas. Non, c'est un enfoiré qui avait laissé des petits déchets devant chez moi. Des mouchoirs en plus, en temps de Covid, c'est bien. Donc, bah, j'ai été les ramasser et tout.
Donc du coup, t'es en quarantaine.
Voilà, c'est ça.
Arnaud.
Arnaud, qu'est-ce qu'il aime pas? Bah, il aime pas qu'ils sont en train de nous dire que les restaurants vont rester fermés jusqu'à mi-janvier. Donc ça, forcément, c'est moyen, hein, si ça se confirme. Et ce que j'aime, bah, c'est que les Vikings, ils ont encore gagné. Ils avaient démarré une saison toute poivre. Et ils sont en train de, ils viennent d'enchaîner 3 victoires de suite. Et on commence à parler d'eux pour les playoffs. Donc, c'est la fête.
Voilà. Ah oui, oui, c'est la grosse fête.
C'est la grosse fête parce qu'ils étaient partis pour faire une saison catastrophique. Et là, je ne sais pas, retour de Dalvin Cook, voilà, l'équipe, comment dire, la mayonnaise qui commence à prendre. Et voilà, et 3 victoires de suite.
Ça souffle dans la corde.
Ça souffle dans la corde, ouais, mais bon, par raison, il n'y a pas trop de public. Donc,
c'est ça, avec un masque, c'est compliqué de souffler dans une corde. Ouais, donc tu as fait ton j'aime pas. Aloïs ?
Alors, j'aime pas, déjà, c'est, alors, dans l'hôtel où je bosse, il y a des travaux autour de l'hôtel. Un échafaudage était en train d'être démonté et j'ai eu la magnifique surprise de retrouver une bonne dizaine de vis, clous, tout ce que tu veux, devant l'entrée du parking où une bonne vingtaine de voitures y passent tous les jours. J'ai un peu halluciné, surtout qu'un des mecs qui travaille sur cet échafaudage m'a croisé et m'a dit « Alors, on trouve de l'or ?» Je l'ai un peu mal pris, mais je me suis gardé pour ne pas le frapper.
J'ai cru que les clous étaient devant les roues de ton vélo, moi.
Ah, il est bon.
Mais justement, c'est pour ça que je les enlevais également, parce que je n'y passe en vélo, donc j'ai également pensé pour ma pomme.
Ouais, et ton j'aime, du coup?
Et mon j'aime, c'est le début de la saison de basketball universitaire la semaine prochaine, après une longue interruption depuis le mois de mars. Une bonne nouvelle, enfin.
Et y a pas la, c'est la draft, c'est demain la draft, non?
Et c'est la draft NBA demain, mais ça m'intéresse un petit peu moins.
D'accord.
Mais effectivement, c'est ce mercredi soir.
Tu es resté à l'école, toi. Tu préfères tout ce qui est universitaire au-dessus. C'est pas pour toi.
Ouais, ça m'intéresse moins.
Tu as raison. Je vais commencer avec mon j'aime, messieurs. Bah, figurez-vous que c'est la 499e, je l'ai dit. Donc ça veut dire que la prochaine, c'est la 500e. Et bien, c'est toutes les petites surprises qu'on est en train de vous préparer. Oui, je sais compter, Lilian. C'est toutes les petites surprises qu'on est en train de vous préparer pour la 500e, qui aura donc lieu au début de l'année 2021. On communiquera en temps voulu. Mais bien évidemment, on sera tous autour de la table, même si ce sera peut-être une table virtuelle, on verra. Mais...
Et peut-être un peu plus grande que d'habitude, surtout.
Ouais, c'est ça, ça va pousser les murs. Et le j'aime pas, je suis tombé l'autre jour sur le documentaire de Fernando Alonso sur Amazon Vidéo. Et j'aime pas les commentaires scriptés, forcés de Pathé Phil, en fait. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ça. Je trouve que ça fait absolument pas naturel et je trouve ça dommage.
Non, écoute, moi j'ai pas vu du tout. Donc c'est il parle et c'est sur quoi sur quel sujet globalement?
J'ai regardé que les deux premiers épisodes pour l'instant, c'est sur Fernando Alonso.
Le fait qu'il est touché à tout, en fait.
Le fait qu'il est un peu touché à tout. Il parle un petit peu d'Indianapolis, il parle du Dakar, de son. Enfin, avec McLaren, comment ça se passait à ce moment-là pour aller à Indianapolis, toutes ces choses-là.
Et dans quel cas, il y a Pathé Phil qui interviennent, du coup?
Pathé Phil, en fait, ils font des traductions de commentaires de course.
Ah oui, d'accord. Okay.
Donc,
ah, oui.
Donc ils se retrouvent un petit peu à commenter l'Indy 500. Tu sens que c'est totalement scripté, totalement forcé.
Parce que tu les connais, oui. Tu connais leur style en live, quoi. C'est sûrement pour
ça. C'est ça.
Peut-être que quelqu'un qui les connaît pas, il voit pas de différence.
Mais c'est
souvent ça. Ouais, mais c'est souvent comme ça.
Hein. C'est par rapport à du live où, ils ont l'habitude de commenter ce qui se passe et d'interagir. Là, tu sens que c'est forcé. Et je trouve que ça dessert un petit peu le documentaire qui est pas un petit peu de libre cours au niveau des commentaires justement de Pathé Phil. Mais bon, voilà,
d'accord.
C'est mon j'aime pas. Et l'info qui sert à rien, messieurs, histoire de terminer l'année en beauté, on va parler de Ryan Blaney. Eh bien, figurez-vous que ce brave monsieur n'aime pas le champagne et ne sait pas le servir.
Donc je comprends mieux pourquoi il a une coupe mulet, parce qu'il n'a pas de goût.
Toi, t'as regardé Glass Case of Emotion.
Exactement.
Ouais, je l'ai regardé aussi. Cet épisode-là, je l'ai regardé, ouais.
Donc, oui, voilà. Pour ceux qui ne comprendraient pas, c'est le podcast que tient Ryan Blaney sur NASCAR.com et sur YouTube toutes les semaines.
Avec Kim Kuhn et je me souviens pas du nom du troisième compère. Hein.
Effectivement, ils sont à trois et là ils se retrouvaient pour la première fois depuis le mois de mars dans la même pièce. Ils étaient très émus de se revoir pour la dernière.
Voilà. C'est Chuck Bush, le troisième.
Merci Arnaud. Merci.
Ouais, Arnaud. Vous demandez à quoi vous
êtes. Ouais, et le champagne dans des gobelets en plastique, c'était beau.
Aïe 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 aïe.
Et je pense qu'il n'était pas totalement frais, mais ça après. Pas grave, ils ont l'habitude. Ils savent pas ce qui est bon aux États-Unis. Allez, messieurs, on va reprendre rapidement le fil de l'émission pour reparler de cette nouvelle voiture qui devait arriver en 2021. Mais pandémie oblige, Arnaud. Report d'une année. Et du coup, on fait des tests. Cette semaine, c'est du côté de Charlotte. Donc, lundi, Charlotte. Sur le routier et mercredi sur l'ovale et sur le routier avec 100 chevaux de moins que la semaine, enfin que pendant la course des playoffs, on va 3 secondes plus vite tout simplement, Arnaud.
Et ouais, donc a priori, donc ils ont roulé hier et bon, les deux pilotes sont super contents et voilà, c'est quelque part, la NASCAR a fait une vraie voiture de course, mais en tout cas une voiture de course qui est sûrement plus adaptée au circuit routier que ne l'est la génération de voitures actuelles. Et ça s'est vu. Alors je pense que demain, on ne verra sûrement pas les mêmes écarts. J'espère hein, qu'on ne verra pas les mêmes écarts sur Oval, sinon les voitures vont aller très très vite. Mais voilà, c'est clair que sur circuit routier, apparemment, ça a fait un gros écart. Le bruit aussi, donc il y a des petites vidéos qui circulent sur internet, là, sur Twitter, des vidéos avec le son. Vous verrez le son beaucoup plus rauque, beaucoup plus grave en fait que le bruit actuel des voitures. Donc un système d'échappement un peu old school qui fait du bien. Et les pilotes sont plutôt satisfaits aussi de la boîte de vitesse, hein, plus de vitesse séquentielle. Donc c'est que du positif. Et en plus, bon, moi finalement, le look, franchement, il n'est pas aussi décalé que la côte, on se rappelle la côte qui était arrivée avec son aileron arrière, etc. Mais que je ne connais pas, moi, la côte à l'époque. Hein, mais là, en tout cas, celle-là, elle est de l'extérieur assez proche de ce qu'on connaît actuellement, à l'écrou central près et le gabarit des pneus. Et donc, du coup, ça a de la gueule. Hein, je trouve que ça a de la gueule. Et on l'a toujours dit, hein, les voitures sans peinture de pré-saison qu'on voyait en pré-saison à Daytona, etc. Je trouve que ça a toujours un petit cachet sympa qu'on retrouve là actuellement avec la next gen de développement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça avance bien et puis voilà, vivement vivement 2022.
Ouais. Loïs, tu voulais ajouter quelque chose, je crois.
Je sais plus ce que c'était.
Bon, alors c'est pas grave.
En tout cas, je confirme pour avoir écouté les vidéos, le son est très agréable. Je trouve que c'est pas du tout agressif. D'un point de vue négatif, mais c'est que cet échappement double, donc qui sort à droite et à gauche de la voiture, ça donne maintenant un son qui a un peu plus d'écho, je trouve, et qui sonne effectivement dans les tons graves. Là, on a entendu qu'une seule voiture, mais je pense qu'avec une quarantaine de voitures dans un ovale, ça peut donner un son. Plutôt intéressant, tout du moins on ne saura pas jusqu'au moment où ce sera vraiment testé. Mais cette next gen, en tout cas, ouais, elle a de l'allure.
Et t'imagines ça, donc là, les 36, les voitures avec ce bruit-là, à Bristol, sur la Terre. Voilà, tu te dis.
Il en met une. J'ai juste peur, je suis en train de voir quelques photos, je vois des. Ah mince, comment ils appellent ça sous le pare-choc arrière, des diffuseurs. Je vois un diffuseur. J'espère qu'il n'y aura pas un vieux diffuseur comme ce qu'il y a en DTM ou dans ce genre de compétition. Ça gâche un petit peu le look NASCAR à mon sens.
Ouais. Mais après, je crois que demain, ils testent, ils vont mettre les deux voitures beaucoup plus proches pour faire un peu d'aéro, là, pour tester un petit peu l'impact sur le flux d'air en fait, quand les voitures vont suivre. Ils vont tester ça demain, a priori.
Oui, sur l'ovale,
ça ressemble à une grosse supercar. Une supercar plus large.
Ouais, exactement.
Oui. Alors Lilian, pour faire simple un petit peu et rappeler quelques nouveautés sur cette voiture qui va arriver. Donc on l'a dit, des pneus de 18 pouces avec un écrou central. Ça c'était vraiment la révolution.
Ça c'est la révolution, c'est clair.
Donc, au niveau des arrêts ravitaillement, on devrait gagner un peu de temps.
Ah, c'est la Gibbs qui va être contente.
Ça, j'ai pas dit qu'on ferait plus de conneries.
Oui, encore faut-il mettre les pneus du bon côté.
C'est ça. Au niveau de la boîte de vitesse, donc ce sera une boîte de vitesse séquentielle qui, a priori, de l'avis de ceux qui l'ont testé depuis le début, plus facile à utiliser, plus efficace.
C'est toujours une boîte 4
a priori, il y a plus de
non
vitesse.
Bah, il y a plus cas, de vitesse
pas, dans les commentaires, ils disent qu'il y a plus de vitesse. Donc,
5, 6
Elle est plus étagée.
Ça aussi c'est une révolution. Alors.
Je ne sais pas si c'est définitif, mais en tout cas là, dans ce qu'ils ont testé a priori, il y avait plus d'étagement de la boîte de vitesse.
D'accord, donc ouais, il y a peut-être plus de rapports. On verra ça. La suspension aussi qui va changer, qui permet d'avoir aussi des freins plus larges. Parce qu'on a des freins plus larges.
Si je vous confirme, je vous confirme qu'il y a plus de vitesse.
Voilà. D'accord, bon bah merci. Il y a plus de vitesse. La suspension qui change, a priori, ça permet aussi d'accélérer plus vite, de freiner plus vite, de tourner plus vite. Donc, ça
explique. 3 secondes de moins à Charlotte.
Ça explique les 3 secondes de moins à Charlotte, hein, sur le circuit routier. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du bruit? Ça, vous en avez parlé. avec un son un peu plus rock, un peu plus old school, qui n'est pas a priori sans déplaire à Martin Truex Jr. et Kyle Busch, qui sont en test à Charlotte. Et il y a aussi des nouveautés au niveau de la direction. Donc voilà une voiture qui va être scrutée sur ces prochains mois. Là, c'était le dernier test de 2020. Donc ça va reprendre en 2021. On n'a pas encore le calendrier exact et officiel, mais forcément des routiers, forcément tous les types d'ovales. Et on va petit à petit avoir de plus en plus de pilotes. Et il y a un moment, il faudra faire un choix aussi sur le châssis. Là, on sait qu'on avait une voiture construite par la NASCAR avec un moteur RCR pour Kurt Busch et une voiture construite par AER, l'équipe, enfin, une des équipes du championnat IMSA, avec un moteur Ford pour Martin Truex Jr. C'était en tout cas comme ça lundi. Est-ce que mercredi, ils vont échanger un petit peu les montures, se les partager? Ça, pour l'instant, les infos n'ont pas filtré de ce côté-là. La NASCAR se garde bien de communiquer à ce sujet. On verra ce qu'il en est mercredi.
Petite précision par rapport aux vitesses. Je suis en train de lire un interview et Martin Truex Jr. parle au moins de 5 vitesses, déjà. Il parle pas d'une sixième, mais il dit qu'il peut monter jusqu'en cinquième.
Et ben pourquoi pas? Ça corrobore les dires d'Arnaud qui disait qu'il y avait plus de vitesse.
Merci.
Ouais, quand on sait pas, on demande à Truex aussi. Mais à la rigueur, tant mieux, pourquoi pas. Plus il y a de vitesse, plus il y a de changement, et plus ça peut être source d'erreur aussi, même si c'est du séquentiel. On n'est pas à l'abri d'avoir des petites surprises aussi de ce côté-là. Les pilotes vont avoir un an pour se préparer, et nous, on découvrira ça lors des Daytona 500 2022, du coup.
Ça va être une sacrée révolution, il va falloir s'habituer. Hein.
Mais oui, ça va être une révolution, mais comme le disait Arnaud, comme on a eu la cote, comme on a eu l'injection aussi à un moment qui est
Ouais.
arrivé,
Ah, mais
voilà.
pour nous, en étant téléspectateurs, pardon, c'est minime quand même. Hein. Le
Oui.
carburateur qui est délaissé au profit de l'injection. Ah bon, voilà, oui, dans les virages, tu as pu les retours de flammes des échappements. Après, sinon, c'était pas pour nous, c'était pas flagrant, quoi.
C'est vrai. Non, c'est. Et là, ça
Alors
va
que
être
là,
une
la
très grosse
voiture,
révolution.
bah oui, voilà, les ravitaillements vont être beaucoup plus rapides, tu l'as dit. Bon, voilà, il y aura visuellement aussi, ce sera autre chose. Et puis, bah, les temps
Enfin,
de course, probablement.
beaucoup plus rapide. Si on garde le ravitaillement par gravitation pour le carburant, on va garder globalement les mêmes temps. On va pas
Je
gagner
sais.
dix secondes, hein.
C'était une de mes questions. Je ne savais plus au niveau du ravitaillement comment ça allait se faire. Hein. Est-ce que ça allait être un peu comme sur un, comme sur, comment, comme sur des voitures d'endurance, ou est-ce qu'on reste par gravitation à l'ancienne, ouais.
J'ai pas vu passer
Semble.
l'info là-dessus, moi. Parce que ça
Sinon,
serait
non,
étonnant,
en fait, comment dire, on a tout modernisé sur la voiture. Je veux
ouais,
dire, on est
mais
passé au tableau de bord électronique.
quand tu regardes les photos, quand tu regardes les photos, il y a le même embout, tu sais,
Ouais. Même
pour mettre
procédé.
les cannes. Donc,
Ok.
j'ai l'impression qu'on va conserver ça.
C'est
En tout cas,
le. Ouais.
sur les voitures de test. Hein.
C'est le. Ouais.
Les jerrycans, hein, pour ceux qui se posaient la question.
Le dernier appendice vintage, on va dire.
C'est
C'est ça.
ça. Donc voilà un petit peu pour parler de cette next-gen. On suivra le dossier en fil rouge tout au long de l'année 2021. En tout cas, quand il y aura des infos, bien évidemment. On va vous remercier toutes et tous de nous avoir écoutés tout au long de l'année. C'est 43 épisodes, hein, on ne l'a pas fait exprès de faire 43 émissions. Merci à Loïs, merci Arnaud, merci Lilian d'avoir été aussi présent. Même si Arnaud, tu n'as fait que quelques émissions, tu as été présent, souvent, tu as écouté, tu nous as fait des retours. Donc voilà, merci à vous. Et puis, on va se donner rendez-vous en 2021, comme on l'a dit, pour la 500e et puis pour plein d'autres émissions derrière, puisque la saison s'annonce d'ores et déjà intéressante, que ce soit en IndyCar, en NASCAR ou autre. Il y aura plein de choses. Donc voilà, merci à toutes et tous. À très vite. Bye
Eh ben, bonne fête de fin d'année, et puis on se retrouve avec plaisir en 2021.
Bonne fête de fin d'année, au mi-novembre.
On sent le mec qui veut placer ses chocolats
Ah,
en boutique.
je fais pas de pub, je ne fais pas de pub.
Allez,
Et
merci à
à l'année
tous.
prochaine,
Ciao.
tout le monde.
Bye bye.